Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, ravi de vous retrouver, merci de votre fidélité. Le Nigeria va être au centre de notre émission cette semaine. L'état du Borno par exemple et plus largement la région du lac Tchad avec notre invité Vincent Iribarren. Notre voyage au cœur de 7 jours d'actualité nous conduira aussi au Venezuela, par exemple. Et tout de suite, partons pour la Syrie. Avant la victoire finale sur les djihadistes de l'organisation de l'État islamique, les combats se sont concentrés sur quelques kilomètres carrés dans la localité précisément de Barouz. De Beyrouth, Paul Khalife faisait un point mercredi.
Les bombardements aériens et terrestres visent à faire pression sur les derniers djihadistes encore retranchés dans le réduit d'un demi-kilomètre carré dans la localité de Barouz, à l'est de l'Euphrate, non loin de la frontière avec l'Irak. Selon le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Rami Abdelrahman, quelques 260 djihadistes refusent de se rendre à la coalition arabo-kurde qui encercle totalement la dernière poche du groupe État islamique en Syrie. Ils se cachent dans des tunnels avec des membres de leur famille. Ce mercredi, 26 camions remorques sont sortis de Barouz, avec à leur bord 1800 civils, en majorité des femmes et des enfants, et 180 combattants. Cette première évacuation a pu avoir lieu après des jours de négociations par l'intermédiaire de chefs de tribus arabes de Deir ez-Zor. Rami Abdelrahman a affirmé que les personnes évacuées du dernier réduit de l'EI seront transportées vers le champ gazier de Omar ou vers des bases américaines. Parmi les civils figurent de nombreuses femmes de nationalité française, allemande ou russe, selon des journalistes qui ont pu les rencontrer. Les négociations, ponctuées de pressions militaires, se poursuivent pour convaincre les derniers djihadistes de déposer les armes. Un ultimatum de quelques heures leur a été accordé avant que l'assaut terrestre final ne soit lancé.
Nous reparlerons de la Syrie et tout à l'heure à propos de la mort d'un djihadiste français porte-voix de l'organisation de l'État islamique. De façon générale, la situation est à suivre dans nos journaux. Merci de votre fidélité, une semaine d'actualité à écouter aussi sur le site de la radio www.rfi.fr et sur l'application RFI Pure Radio. Bonjour Vincent Iribarren.
Bonjour Pierre-Edouard Deldic.
Merci d'être venu de Londres, presque du Nigeria, pour nous parler de votre pays de prédilection. Alors je rappelle que vous êtes, ou j'apprends à nos auditeurs, que vous êtes maître de conférence au King's College de Londres, une référence, où vous enseignez notamment l'histoire de l'Afrique et vos recherches portent donc sur le Nigeria. Vous vous intéressez aussi à la notion de frontière sur le continent africain, grande question, la frontière en Afrique. Et vous venez d'écrire un livre que je trouve formidable qui s'intitule « Un manguier au Nigeria ». Histoire du Borno. C'est un livre à la fois savant et un livre de rencontre avec les Nigérians. Vous nous faites sentir ce pays. C'est normal puisque ce livre est édité dans la collection Terre Humaine, hein, qui est une prestigieuse collection d'anthropologie et qui nous fait connaître les pays à hauteur d'homme, comme on dit couramment. Et vous êtes aussi l'auteur d'une étude universitaire sur le Borno.
Tout à fait. J'ai fait une thèse d'histoire sur l'histoire des frontières du nord-est du Nigeria pour comprendre d'où venaient ces frontières et comment elles avaient une influence aujourd'hui sur la vie des populations locales. Aujourd'hui, je peux parler de mes rencontres avec les gens petit à petit, comment j'ai réussi à leur parler de leur propre histoire, et tous m'ont voulu me dire qu'ils ne voulaient pas parler que de Boko Haram. Boko Haram qui est tristement célèbre pour avoir kidnappé des lycéennes.
Hélas, on va en reparler, nous.
Ah oui. Et oui, justement, je voulais montrer une autre dimension, une histoire plus longue, ouais. Un royaume qui avait 1000 ans. Beaucoup de personnes qui étaient très fières de cette histoire et qui voulaient à tout prix me parler de ces 50 dernières années, de ces 100 dernières années, de la colonisation britannique, du Nigeria indépendant, de la guerre civile au Nigeria, de la famine qui régnait chez eux, ou bien de la pauvreté, simplement, ou de l'état d'abandon dans lequel le Nigeria les laissait. Donc c'est finalement toutes ces histoires-là que je voulais raconter dans ce livre.
Alors je suis ravi d'accueillir un spécialiste de l'Afrique qui ne mène pas ses recherches à Paris, non pas que je n'aime pas ceux qui travaillent sur l'Afrique à Paris, mais ça change tellement d'avoir un spécialiste de l'Afrique, un Français qui travaille à Londres.
effectivement, travailler sur les pays anglophones.
King's College, en plus.
Et travailler sur les pays anglophones est certainement plus facile à Londres, puisque finalement, j'ai accès à des sources coloniales, mais aussi à des contacts avec des pays anglophones qu'on n'imagine pas forcément à Paris. Mais inversement, l'inverse aussi est vrai. Il faut dire que les pays dont on parle très souvent en France, les pays africains dont on parle très souvent en France, sont assez souvent, malheureusement, ignorés côté britannique. Donc il y a quand même toujours un très fort tropisme linguistique. La langue, que ce soit le français ou l'anglais, voire le portugais au Portugal, a toujours un impact sur la façon dont les recherches sont menées.
D'ailleurs, vous montrez très bien, puisqu'on va parler du lac Tchad, que puisque le Cameroun est voisin, frontalier, que s'il s'agit de deux mondes différents. Le nord du Nigeria, le nord-est du Nigeria et le Cameroun, c'est deux mondes différents.
Exactement. Je suis allé traverser la frontière en 2010, un 14 juillet. C'est une histoire que je raconte dans le livre. Et l'officier des douanes lisait Rousseau pour préparer un concours, comme en France, un concours, et m'a souhaité, quand j'ai traversé la frontière, bonne fête. Je n'ai pas compris pourquoi il me souhaitait bonne fête. C'était parce que c'était la fête nationale des Français. Et donc j'ai compris que je rentrais dans un autre monde, alors que j'avais fait simplement 50 mètres en territoire camerounais.
Vincent Iribarren, il faut donner quelques indications sur le Nigeria, rappeler quelques faits objectifs. D'abord, c'est un pays énorme, avec une population très importante, d'environ 190 millions d'habitants à peu près.
Tout à fait, on ne sait jamais vraiment les chiffres au Nigeria, oui. On hésite entre 180 millions et 200 millions. Ce qu'on sait, c'est qu'en 2050, d'après l'ONU, ce serait, au conditionnel, le quatrième état le plus peuplé de la planète, si la croissance démographique se continue de la même manière. Le problème au Nigeria, comme toujours, est celui des chiffres, des statistiques. Pourquoi ? Parce qu'il est très difficile d'organiser des élections. Il est très difficile d'organiser des recensements. Donc on ne sait pas qui habite exactement où, parce que chaque partie du Nigeria, qui est une fédération, chaque État a intérêt à dire qu'il contient plus d'habitants qu'il n'en a vraiment.
Alors vous l'avez dit, une fédération, combien d'États ? 36 ?
36 États plus le territoire de la capitale Abuja.
D'accord. Vous êtes intéressé à l'histoire du Borno, on va en parler dans cette émission. Et il paraît, mais même si ce sont des statistiques peut-être pas très fiables, que 60% de la population du Nigeria a moins de 30 ans.
Oui, ça c'est possible, effectivement. Je me sens vieux quand je marche dans les rues du Nigeria. C'est assez fascinant de voir de quelle façon beaucoup de gens sont très jeunes, hein, très très jeunes. Évidemment, encore une fois, on a très peu de chiffres. On aimerait en savoir plus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que justement le fait que cette population est très jeune pose des problèmes à la fois à l'éducation. Il y a un vrai problème d'accès à l'éducation dans tout le Nigeria, en particulier dans le Nord, et dans le Nord, en particulier pour les femmes, mais aussi le problème d'accès à l'emploi. Et c'est peut-être l'élection de 2019, mais aussi les prochaines élections au Nigeria, auront vraiment l'emploi comme centre principal d'attention pour les électeurs.
Et les deux principaux candidats qui se présentent aujourd'hui ont un peu plus de 70 ans, donc ils ne sont pas très représentatifs. Quand même,
c'est vrai que les deux sont des routards de la politique du pays. Le premier a été dictateur du pays de 1983 à 1985.
Donc c'est l'actuel président.
L'actuel président, donc Mohamedou Buhari, il est du nord du pays, qui était élu démocratiquement il y a 4 ans, donc il se représente cette année. Le deuxième vient aussi du nord du pays, d'une région qui n'est pas loin du Borno, donc le nord-est du pays, qui s'appelle l'Adamawa. Cette personne qui s'appelle Atiku Abubakar a été vice-président du Nigeria indépendant et démocratique entre 1999 et 2007. Et lui aussi donc a une très forte expérience politique, expérience mais aussi soupçon de corruption.
Donc c'est pas vraiment la nouvelle génération des Nigérians qui se présente.
Pas vraiment.
Sept jours dans le monde.
Alors Vincent, partons pour les États-Unis avant de revenir au Nigeria. États-Unis où le président Trump a rencontré cette semaine la communauté vénézuélienne en Floride précisément. Correspondance d'Éric De Salve.
A new day is coming.
Sous les applaudissements nourris de la communauté vénézuélienne à Miami, Donald Trump proclame l'arrivée d'une ère politique nouvelle à Caracas. Le socialisme est en train de mourir, dit-il. La liberté, la prospérité et la démocratie renaissent. Nicolas Maduro n'est pas un patriote, martèle Trump, mais une marionnette de Cuba. Pour faire plier Nicolas Maduro une nouvelle fois, le président américain sous-entend que les États-Unis pourraient faire usage de la force contre son régime.
Nous recherchons une transition pacifique du pouvoir, mais toutes les options sont ouvertes.
Depuis Miami, Donald Trump lance un appel très ferme aux militaires qui soutiennent Nicolas Maduro et refuse l'amnistie proposée par le président autoproclamé Juan Guaido, reconnu par les États-Unis et une cinquantaine d'autres pays.
Vous ne trouverez aucun refuge, aucune issue, aucune sortie. Vous perdrez tout.
everything.
Donald Trump qui demande aussi de laisser entrer l'aide humanitaire américaine au Venezuela. Un peu plus tôt, la Maison-Blanche indiquait savoir où les officiers vénézuéliens et leurs familles dissimulent leurs avoirs financiers, sans pour autant lancer de sanctions à leur encontre pour le moment.
À suivre dans nos journaux, notamment l'acheminement de l'aide humanitaire dans le pays. Retour au Nigeria, Vincent Iribarène, pour évoquer le report d'une semaine des élections, ces élections générales, donc présidentielles et législatives, de samedi dernier à ce samedi, donc Lagos, Julie Vandal.
Le report des élections générales d'une semaine a surpris les Nigérians, mais il n'a rien d'étonnant. La commission électorale n'en est pas à son premier renvoi, comme l'explique Hidayat Hassan, directrice du Centre pour la démocratie et le développement, un institut de recherche basé à Abuja.
Ça devient presque une triste habitude depuis 2011. Cette année-là, les élections avaient été interrompues en plein milieu de la journée, alors que les populations votaient. En 2015, elles ont à nouveau été repoussées en raison de problèmes sécuritaires, et cette fois-ci encore moins de 5 heures avant le début du scrutin. Mais là, nous avions reçu la garantie que tout était en place. D'après ce qui a été dit, ils connaissaient les problèmes 3-4 jours avant le scrutin. 24 heures avant aurait suffi pour repousser le jour du vote. Je crois qu'ils n'ont pas réalisé l'ampleur de la tâche.
Plus de 84 millions d'électeurs, 72 candidats à la présidentielle. Après le report in extremis du scrutin, beaucoup ont appelé à la démission du président de la commission électorale INEC. Pour l'avocat et militant des droits de l'homme, Femi Falana, ce n'est pas une solution.
En l'état, cela pourrait même compliquer le problème. Quelle que soit la personne qui reprendrait la direction de l'INEC, il dirait avoir besoin de temps supplémentaire pour organiser de bonnes élections. Ces reports perpétuels indiquent plutôt qu'il faut des réformes électorales en profondeur. Elles ont d'ailleurs été recommandées par 3 rapports gouvernementaux successifs, y compris par l'administration Buhari.
Compte tenu de ces reports répétés, le CERAP, un important groupe d'ONG, a annoncé vouloir poursuivre en justice les autorités une fois les élections passées.
Vous écoutez RFI et particulièrement une semaine d'actualité. Nous sommes toujours en compagnie de Vincent Iribarène, spécialiste du Nigeria, qui vient d'écrire un manguillé au Nigeria, Histoire du Borno, dans la grande collection Terre humaine. Il faut que nous parlions un peu de la vie politique au Nigeria. Deux grands partis se partagent la scène, hein, c'est ça ?
Exactement. Un peu comme aux États-Unis, vous voyez, on a une constitution modelée sur celle des États-Unis, des élections qui tiennent place tous les 4 ans. Un président, un vice-président, des gouverneurs d'État, dans des élections sur le même modèle, mais une démocratie très différente. On a deux partis qui ne sont pas très différents entre eux, qui n'ont pas de programme politique étant très différents, sont plutôt deux réseaux de clientélisme différents, simplement, avec des gens qui trahissent le camp toujours avant les élections. On a toujours des histoires les mois précédents les élections d'un tel ou une telle qui vont ici ou là. Mais c'est souvent le problème de ce genre d'élection où finalement il y a peu de différence entre les candidats et ça motive très peu les électeurs finalement qui ont le choix entre deux candidats assez âgés aujourd'hui qui finalement ne proposent pas des choses très différentes. Ce seront peut-être leurs vice-présidents qui vont faire la différence. Le premier entre eux s'appelle Osin Bajo. Il est actuellement vice-président. Il vient du sud-ouest du pays. Professeur de droit, pasteur d'une église du réveil. Le second s'appelle Peter Obi pour l'autre parti, qui lui vient du sud-est du pays, qui a longtemps été mis en retrait, qui était le pays qui avait fait sécession pendant les années 60 sous le nom de Biafra.
Oui, bien
donc
sûr.
Lui-même dit qu'il représente donc ces personnes qui viennent du pays Ibo. Donc il est lui-même un businessman comme son président, son colistier qui s'appelle Atiku Abubakar.
Oui, parce que sur le plan politique, sur le plan économique, les deux candidats, les deux partis proposent la même chose, quasiment.
À peu près. Le président, en ce moment au pouvoir, est plus nationaliste. Il prônera plutôt un nationalisme économique nigérian. Le second est plus pro-business. Il se présente comme tel, en tout cas. Il a fait fortune en étant agent des douanes. Il a son colistier.
Je ne savais pas qu'on pouvait faire fortune en étant agent des douanes, mais bon.
Exactement. Il est accusé. Il y a eu des accusations de corruption qui n'ont jamais été prouvées.
Oui. Alors, vous me disiez, Vincent Iribarène, que ce qu'on entendait sur le Venezuela vous faisait aussi penser au Nigeria.
Oui, exactement.
C'est le pétrole.
Et le pétrole, exactement. Les deux pays souffrent de la même maladie. Le fait que leurs ressources principales viennent de l'argent extérieur, donc du pétrole. Ce qui fait que toute leur économie dépend en termes de pétrole et est très peu diversifiée. Et d'ailleurs, c'est l'un des arguments du candidat Atiku Abubakar, qui lui veut une diversification de l'économie, un retour à une industrialisation du pays ou une multiplication de l'économie de services dans tout le Nigeria. Ouais. Mais les deux souffrent du même problème et donc le même résultat ayant corruption, instabilité gouvernementale, accusations de ci de là, et c'est vrai que structurellement ces deux pays sont assez similaires.
Mais on sent que ce report de l'élection d'une semaine, des élections d'une semaine a fait monter la pression.
Tout à fait. Jusqu'à présent, les élections étaient assez tranquilles, ce qui était assez, ce qui est un bon signe. Quelque part, on ne parle pas beaucoup de Nigeria, et quelque part, c'est un bon signe. On ne parle pas de tellement de compétition entre des groupes religieux ou de compétition entre des groupes communautaires. Pour une fois, on parlait de programmes politiques ou au moins de personnalités. Mais là, depuis le début janvier, et surtout depuis le report des élections de samedi dernier, on se retrouve avec une montée des tensions, des violences, des accusations, des fausses nouvelles qui circulent. Donc, vous voyez, c'est, d'un seul coup, la tension est montée d'un cran.
Fausse nouvelle qui constitue un des fléaux aujourd'hui au Nigeria, comme d'ailleurs dans d'autres pays.
Ah, c'est un classique au Nigeria. On a depuis des années des rumeurs qui circulent. L'une, la plus célèbre de l'année 2018, est celle qui voulait que le président actuel du Nigeria, Muhammadu Buhari, soit mort et était remplacé par un clone qui serait Djibril du Soudan. En quoi cette rumeur est intéressante, c'est parce que le président lui-même a dû dénier cette accusation et a dû dire en public qu'il n'était pas Djibril Soudanais, qu'il était lui-même.
Il fallait qu'il se justifie et qu'il dise qu'il était vraiment le président.
Il est là, c'est le vrai.
Une semaine d'actualité.
Cap vers le Vatican avant de repartir au Nigeria. Vincent, le pape François a en effet réclamé des mesures concrètes et efficaces au début jeudi dernier d'un sommet de plusieurs jours au Vatican destiné à convaincre les chefs de l'Église catholique dans le monde de leur responsabilité face aux agressions sexuelles sur mineurs. Avant même ce sommet, des victimes de pédophiles en soutane ont été reçues par les organisateurs de ce sommet à Rome, Eric Sonanck.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, les organisateurs de ce sommet tenaient à entendre les témoignages de ces hommes et femmes blessés par des membres de l'Église. L'anglais Peter Saunders, agressé sexuellement à l'âge de 12 ans par deux prêtres, a été membre de la commission pontificale de protection des mineurs avant d'en claquer la porte par manque de résultats. Il attend de cette rencontre qu'enfin sortent des mesures efficaces pour punir les prédateurs dans l'Église.
Nous attendons surtout que le pape mette enfin en pratique ce dont il parle depuis des années, à savoir la tolérance zéro. Et la tolérance zéro signifie que tout prêtre, religieux ou religieuse, qui abuse d'un enfant et qui est condamné, soit expulsé de la vie religieuse pour toujours.
Pendant un peu plus de deux heures, 12 victimes ont été reçues par le comité d'organisation du sommet à quelques mètres seulement de la place Saint-Pierre. Ils viennent de Jamaïque, du Chili, des États-Unis ou encore de France, comme Olivier Savignac, dont le procès du prêtre agresseur s'est tenu au mois de novembre dernier.
On est là aussi pour appeler chaque évêque à d'abord écouter les victimes. C'est la première des choses. De toute manière, ils sont au pied du mur, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils savent le poids que représente en fait l'enjeu actuel.
Si ces victimes regrettent l'absence du pape François à la rencontre d'hier, la majorité d'entre elles voient ce sommet comme une étape essentielle pour en finir avec l'impunité. Le Vatican a dans un communiqué souligné que leur témoignage aiderait sûrement à mieux comprendre la gravité et l'urgence des problèmes.
À suivre dans nos journaux avec notamment notre envoyé spécial Geneviève Delru. Il était considéré comme la voix qui a revendiqué au nom du groupe État islamique les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Le djihadiste français Fabien Klein a été tué en Syrie. Olivier Four.
Selon les estimations, plusieurs centaines de djihadistes français pourraient encore se trouver dans la zone irako-syrienne. Les unités spéciales qui recherchent en Syrie les membres les plus actifs de l'organisation État islamique pensaient en retrouver certains dans la région d'Adjin, mais c'est dans le secteur voisin de la poche de Barouz que les frères Klein ont été visés. Une frappe de drones américains, selon nos informations. Fabien Klein serait donc mort, mais il faudra procéder à des tests ADN pour avoir une confirmation à 100% de son décès, fait-on remarquer à Paris. Fabien Klein jouait encore un rôle opérationnel important dans l'organigramme de l'EI. Son dernier message de propagande en français remonte au 28 décembre dernier. Près de 150 djihadistes français et leurs familles sont aux mains des Kurdes en Syrie. Et ces derniers jours, les lignes ont bougé alors que les services occidentaux prépareraient le retour des familles des djihadistes et que certains combattants de l'EI ont préféré se rendre. De nouvelles informations ont peut-être été recueillies, fait remarquer un expert de la mouvance islamiste. Après cette frappe, toute proche de la frontière irakienne. Le nom de Fabien Klein s'ajoute donc à la liste des cadres français ou des éléments de l'EI impliqués dans les attentats contre la France, visés par des frappes de drones américains. Au moins une dizaine de responsables de haut niveau depuis 2015.
Retenez aussi qu'en chute dans les sondages, Vladimir Poutine a assuré mercredi vouloir améliorer la qualité de vie de ses compatriotes, mais aussi menacé de déployer de nouvelles armes de la Russie contre les pays occidentaux après le retrait américain de l'accord qui limitait le déploiement par Washington et Moscou de missiles nucléaires de moyenne portée. Repartons au Nigeria maintenant, Vincent Iribarren, avec les propos du président Buhari avant le scrutin il y a quelques jours, des propos menaçants pour le moins qui ont déclenché d'ailleurs une polémique. Retrouvons Julie Vandal à Lagos.
L'intervention du chef de l'État sortant a été brève, mais elle a fait son effet. En déclarant avoir ordonné à la police et aux militaires d'être sans pitié avec ceux qui voudraient truquer le scrutin, Muhammadu Buhari a ravivé le douloureux souvenir des dictatures militaires. Le principal parti d'opposition, le People's Democratic Party, a aussitôt dénoncé des menaces et une dérive autoritaire. Kola Ologbondiyan, porte-parole du PDP.
C'est une violation évidente de la loi. Même si au PDP, nous n'appuierons jamais le trucage des élections, et nous nous sommes engagés dans ce sens, nous ne pouvons pas autoriser le président Muhammadu Buhari à se transformer en un dictateur totalitaire qui favoriserait les tueries extrajudiciaires. Aucun président dans le monde civilisé actuel ne devrait appeler à des exécutions sommaires de ses concitoyens.
Dans une guerre des mots de plus en plus virulente, Bola Tinubu estime que les esprits s'emballent. Pour le très puissant ex-gouverneur de l'État de Lagos, directeur de campagne de Muhammadu Buhari, il y a erreur d'interprétation.
Le président n'a fait que rappeler une évidence. Si vous perturbez le scrutin, c'est au péril de votre vie. Aucun président ne va ordonner qu'un citoyen soit abattu sommairement. Non. Tout va bien, ce ne sont pas ces mots. Le président comprend totalement les lois fondamentales et il sait bien que son rôle est de protéger la vie de nos concitoyens.
Dès ce lundi après-midi, un nouveau hashtag a aussitôt fait le buzz sur les réseaux sociaux. Snatch at your own risk, vote à tes risques et périls.
Vincent Iribarren, est-ce que le président Buhari a l'habitude de ce genre de déclaration?
Oui, c'est un ancien général qui lui-même était dictateur militaire entre 1983 et 85, connu pour sa poigne. Quand il est devenu président en 2015, donc il y a maintenant 4 ans, il était connu aussi pour écouter très peu de personnes. Et c'est spécialement ces deux dernières années, il écoutait de moins en moins ses conseillers et ses ministres. D'ailleurs, il a été rappelé à l'ordre par un ancien général qui a lui aussi été président ensuite, Obasanjo, qui lui a dit de commencer à écouter les autres, s'il vous plaît. Donc c'est une sorte de style, mais aussi de méthode au sein du gouvernement que l'on lui reproche.
Alors il nous faut parler, Vincent, de la religion, l'impact des religions au Nigeria. Est-ce qu'on peut dire que le pays est coupé en deux, en quelque sorte, avec les musulmans au nord et les chrétiens avec toute leur diversité au sud?
On le présente souvent comme ça, et c'est plutôt ce qu'on ressemble le Nigeria au début du XXe siècle. Vous voyez, aujourd'hui, la situation est beaucoup plus complexe. Au nord, effectivement, il y a des foyers musulmans depuis au moins 1000 ans. Par exemple, dans le nord-est du Nigeria, mais aussi les chrétiens qui sont arrivés avec les colonisateurs, d'abord portugais, puis britanniques ensuite, depuis le XVIe siècle. Le christianisme a largement progressé au XXe siècle, et qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation où on dit qu'il y aurait entre 50% de musulmans et 50% de chrétiens dans tout le Nigeria, avec en majorité des musulmans au nord, et peut-être en majorité des chrétiens au sud. Mais vous voyez, il y a beaucoup de musulmans dans le sud-ouest du pays, par exemple, mais aussi beaucoup de chrétiens dans la ville de Kano ou dans le Borno.
Chrétiens qui ne sont pas forcément des catholiques, il peut y avoir des protestants...
Des anglicans, des protestants, born again, des églises du réveil venues des États-Unis, mais aussi des églises africaines indépendantes. Donc on se retrouve avec une offre chrétienne très, très variée.
Et est-ce que la religion, on va évidemment parler de Boko Haram dans un instant, joue un rôle très prégnant dans la société nigériane aujourd'hui?
Officiellement, le Nigeria est un État laïque.
Officiellement, mais...
En vérité, les Nigérians sont éminemment croyants. On retrouve dans les rues de n'importe quelle ville du Nigeria de nombreuses églises ou mosquées, ou églises et mosquées, de toutes confessions différentes. Donc on retrouve avec de très nombreux panneaux, par exemple pour les églises chrétiennes, qui sont inspirés parfois de certains passages de la Bible, ou beaucoup de mosquées inspirées de différentes architectures. On les retrouve, celles qui viennent du Sahel, évidemment, mais aussi d'architectures qui viendraient peut-être d'Arabie Saoudite, ou peut-être de Turquie. Vous voyez, on retrouve différentes inspirations. Donc c'est un pays éminemment religieux, on entend des cloches, des appels à la prière, où on parle, où on vend aussi beaucoup de livres qui ont trait à la religion, donc on parle beaucoup de religion.
Alors l'islam, dans le monde islamique, la nouveauté de ces dernières années, nouveauté entre guillemets, c'est évidemment l'arrivée de l'islamisme et de Boko Haram que vous avez vu naître en quelque sorte.
Oui, c'est vrai que...
Dans les années 2000.
Exactement, dans les années 2000, j'ai pu constater que cette forme de revendication politique prenait une dimension... quasi violente. Donc dans
l'extension de la charia dans le pays.
Dans le nord du pays, il y a toujours une forme d'application de la charia, mais à partir des années 2000, à partir du retour de la démocratie, on a commencé à demander d'appliquer la charia. Donc au nord du pays, démocratie rime avec imposition de la charia, ou retour au moins de l'application de la charia dans le domaine pénal, parce qu'avant elle existait plus ou moins dans le domaine civil. Donc on commence à appliquer la charia dans le domaine pénal, et on se rend compte qu'il y a eu des résistances qui ne sont pas uniquement de la part de chrétiens ou de non-musulmans, mais aussi de la part de musulmans qui ne sont pas d'accord avec cette application du droit dans leur vie quotidienne. Donc ils se sont créés des tensions, et Boko Haram d'ailleurs est une incarnation à cette tension, puisqu'ils disent que la charia est mal appliquée dans le nord-est du Nigeria. Donc eux veulent appliquer la vraie charia. Il y a toujours ce jusqu'au boutisme du Boko Haram pour dire qu'il y a des mauvais musulmans, eux sont les bons musulmans. Il y a de la mauvaise charia, eux vont appliquer la bonne charia.
Et donc le foyer de Boko Haram, c'est ce Borno, enfin cet état de l'extrême nord-est du pays.
Exactement, c'est l'état qui a ses rives avec le lac Tchad. Au nord, vous avez le pays du Niger. À l'est, vous avez le Cameroun. Donc c'est un état frontalier qui a connu depuis longtemps des violences, des conflits très très localisés, mais qui ont pris cette fois-ci une coloration religieuse, éminemment religieuse, avec un appel au djihad contre l'État laïque nigérian.
Oui. Donc on parlera tout à l'heure du lac Tchad plus précisément, parce que c'est d'évidence une zone stratégique aujourd'hui, mais continuons à parler de Boko Haram avec une division de ce mouvement djihadiste.
Ce qu'on appelle Boko Haram aujourd'hui ressemblerait plutôt à une franchise entre différents groupes armés qui se battent entre les îles du lac Tchad et la frontière du Cameroun, avec des îlots aussi peut-être dans la vallée de la rivière Komadogo-Yobé, qui se retrouve à la frontière entre Niger et Nigeria. Vous voyez, c'est très éclaté, très dispersé. Certains revendiquent le nom, certains revendiquent une allégeance à l'État islamique en Syrie.
D'ailleurs, le nom a changé.
Exactement. D'autres récuseraient cette allégeance. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous disposons de très peu d'informations fiables, finalement, à la fois sur le nombre de combattants, mais aussi sur les allégeances de certains. On sait que certains préfèrent une certaine forme d'islam qui ressemblerait au conditionnel à celui de l'État islamique. D'autres pensent plutôt appliquer un islam rigoriste, plus salafiste. C'est très difficile d'avoir des informations précises.
Et à propos de Boko Haram, Vincent Iribaren, on se souvient de l'enlèvement de sa jeune fille en avril 2014 à Chibok, hein, qui était tout un symbole, en quelque sorte, d'un mouvement qui luttait contre l'éducation des jeunes filles.
Exactement.
Des filles.
Le kidnapping dans la région a été malheureusement quelque chose qui est assez courant, malheureusement. Vous voyez, c'est quelque chose qui se faisait même avant. Boko Haram a kidnappé des garçons et des filles, même avant ces filles. Mais ce qui a changé là, c'est le nombre de filles qui ont été kidnappées, plus de 200, et le fait qu'elles n'ont pas été retrouvées pendant des années, mais aussi le fait que une femme comme Michelle Obama en a fait une cause internationale. Il y a eu le hashtag sur Twitter Bring Back Our Girls, mm-hmm. qui faisait dire que le monde entier devait se mobiliser pour ramener ces lycéennes qui avaient été kidnappées. Donc elles sont devenues le symbole finalement de l'éducation à l'occidental, donc d'une certaine forme de culture contre l'obscurantisme de Boko Haram.
Mais vous, le prof, c'est logique, vous préconisez donc un effort sur l'éducation dans cette région, en particulier du Borno, d'évidence.
Ah oui, c'est évident, en particulier pour les femmes dont on
parlait. Après les rencontres que vous avez effectuées et que vous nous racontez dans le livre, effectivement, c'est ce besoin d'éducation avec un taux d'analphabétisme élevé.
Plus de 80%, voire 90% des femmes ne savent ni lire ni écrire, soit en kanuri, qui est la langue locale, soit en oussa, soit en arabe, soit en anglais. Donc vous voyez, on se retrouve rapidement face à une population qui ne sait pas communiquer finalement entre eux, et c'est très difficile finalement de parler à beaucoup de gens. Donc il y a un effort réel à faire sur l'éducation des femmes en particulier, qui sont de plus mariées à un âge très jeune. La moyenne d'âge dans les campagnes de la région est de 13 ans pour les jeunes filles. Donc on se retrouve finalement avec beaucoup de jeunes filles qui sont en dehors de l'école très rapidement et qui doivent demander l'autorisation de leur mari pour retourner à l'école. Donc il y a une domination patriarcale qui est évidente dans la région.
Et notamment dans cet état du Borno. C'est une lutte pour elle.
Exactement. Cette lutte a d'abord commencé dans le sud du pays, dans le sud du Nigeria, où sont des femmes comme Fumilayo Ransom Kuti, la mère du chanteur Fela Kuti, qui ont commencé à se battre pour obtenir des droits politiques, des droits de vote. Et petit à petit, cette lutte pour les droits de vote et ainsi de suite, d'être reconnue dans la société, s'est diffusée vers le nord du pays. Dans le nord du pays, c'est effectivement plus difficile. On a affaire à une société plus conservatrice, où les femmes doivent demander à leur mari leur accord pour soit étudier, soit travailler. Et donc celle-ci, petit à petit, essaye d'avoir plus de place dans la politique. On sait qu'en 2019, début 2019, il n'y a que 6% des femmes qui sont élues dans les magistratures, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Aucune femme, en revanche, n'est jamais devenue présidente, ni vice-présidente, ni gouverneur d'un des États fédérés du Nigeria. Donc il y a beaucoup à faire en termes de reconnaissance, mais aussi en termes de représentation politique de ces femmes qui doivent pour favoriser l'éducation des femmes, qui doivent pour travailler pour l'indépendance financière des femmes, qui ont un énorme travail devant elles pour changer les mentalités dans tout le Nigeria.
Et est-ce que dans cet état du Borno, Boko Haram a déjà fait des dégâts sur l'éducation des femmes, déjà difficile? Est-ce qu'il y a déjà eu un impact?
Une génération entière d'habitants du Borno donc a été quasiment sacrifiée depuis le début donc du conflit, depuis le début des années 2000, entre ceux qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'il n'y a plus d'école physiquement, ou ceux qui n'ont pas accès donc aux services de l'État. Peu d'enfants, garçons et filles, ont accès à l'école. Les filles en particulier vont moins à l'école en général. Donc on se retrouve encore avec une accentuation des problèmes déjà préexistants. Donc Boko Haram n'a fait qu'exacerber un problème malheureusement récurrent dans la région.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons parler, Vincent, de la France. Maintenant, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées mardi pour protester contre une résurgence de l'antisémitisme dans le pays, encore illustrée par la profanation d'un cimetière juif dans l'est du pays ces derniers jours. Un court moment d'unité nationale, en quelque sorte, pour protester contre la hausse des actes antisémites, l'agression verbale contre le philosophe Alain Finkielkraut, par exemple, samedi dernier. Ces rassemblements ont eu lieu à Paris et dans plusieurs villes dans tout le pays. Reportage à Bordeaux, Alexis Bédu.
Pierre Aurélien est un étudiant bordelais. Il est arrivé gilet jaune sur le dos et a pris le micro. Son message, des excuses auprès des minorités régulièrement insultées par certains manifestants gilets jaunes.
On cherchait à savoir comment nous pouvons exclure de ce mouvement de contestation tous ces gens qui ne veulent que la destruction.
Il tient à le répéter, pas d'amalgame, tous les gilets jaunes ne sont pas antisémites.
Le mouvement des gilets jaunes n'est pas un mouvement politique uni, et donc c'est des cas issus d'une culture antisémite, d'une culture raciste, qui est malheureusement la culture de la France. La France est raciste, la France est antisémite. On ne peut pas prendre les cas à part, ce sont forcément des produits de la société, et on peut les condamner individuellement, et il le faut pour que la société apprenne à ne pas reproduire ces choses-là.
Des mots qui lui valent les applaudissements de la foule, dont ceux du rabbin de Bordeaux, Emmanuel Valency. Il aimerait que chaque Français combatte l'antisémitisme au quotidien.
Ne rien laisser passer, faire en sorte que même les petites expressions populaires ne soient pas des choses complètement banales, les dénoncer, empêcher justement que ces expressions-là puissent se développer encore et encore.
Pour conclure le rassemblement, les Bordelais entonnent une Marseillaise tout en espérant ne pas avoir à revenir prochainement. Bordeaux, Marc Fichet, Alexis Bédu, RFI.
Emmanuel Macron a annoncé mercredi soir vouloir tracer de nouvelles lignes rouges, je le cite, pour lutter contre la haine anti-juive sur Internet ou dans les écoles publiques.
Sept jours en France.
C'est un rapport sévère que les sénateurs, après la tenue de leur commission d'enquête, ont rédigé sur ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Benalla. Simon Rosé.
6 mois de travail, 48 personnes auditionnées pendant 44 heures. Il serait dommage de ne retenir du rapport d'enquête du Sénat que la demande de saisie de la justice au sujet du parjure dont se serait rendu coupable Alexandre Benalla. Ces 120 pages et 13 recommandations sont en effet d'une grande sévérité qui ne laisse aucun doute quant à la conviction des sénateurs. L'affaire Benalla est bel et bien une affaire d'État. Au centre, l'organisation de l'Élysée. C'est elle et son opacité qui ont permis à Alexandre Benalla d'avoir les coudées franches alors qu'il n'était qu'un chargé de mission aux fonctions mal définies, comme l'écrivent les sénateurs. Ainsi, Alexandre Benalla ne figurait pas dans l'organigramme de l'Élysée. La commission d'enquête appelle donc à faire respecter la déontologie et surtout à mettre fin à cette pratique des collaborateurs officieux du président de la République. Une pratique qui, en l'occurrence, a même affecté la sécurité du chef de l'État, estiment les sénateurs. C'est Alexandre Benalla qui s'en occupait, une chose rendue possible par sa mission mal définie. Que vont devenir ces recommandations? Elles n'ont pas de valeur juridique et ne sont pas contraignantes. Le gouvernement peut donc décider de passer outre. Son porte-parole, Benjamin Griveaux, a ainsi déjà dénoncé un rapport avec beaucoup de contre-vérités.
À savoir aussi que pour défaut d'une exceptionnelle gravité, le géant bancaire suisse UBS a été condamné mercredi à Paris à une amende de 3,7 milliards d'euros, la plus lourde peine jamais infligée par la justice française dans une affaire d'évasion fiscale. À noter aussi cette semaine, bien sûr, la disparition de Karl Lagerfeld, le grand couturier de la maison Chanel. Et reparlons du Nigeria, Vincent Iribarren, avec cette fois la lassitude d'une partie des 190 millions d'habitants. Vous attestez qu'il y a effectivement cette lassitude, on va en parler dans un instant. Écoutez par exemple ce reportage de Binta Diagne dans la communauté rurale d'Épée, à 65 km de Lagos.
C'est un village peu animé, avec ses maisons en briques inachevées et raccordées à d'énormes réservoirs en plastique noir, souvent à sec. Dans cette communauté rurale, peu de foyers ont accès à l'eau potable. Favor tient une gargote en bord de route. L'approvisionnement en eau est un défi hebdomadaire.
J'achète 1000 litres d'eau à 1000 naira une fois par semaine, mais cela ne suffit pas. Souvent, mon stock s'épuise au bout de quelques jours.
Tellement découragée, cette mère de famille n'a pas fait l'effort de renouveler sa carte d'électeur. Elle a d'autres préoccupations en tête. Il lui faut notamment chaque jour chercher de quoi alimenter son groupe électrogène puisque le village n'a pas non plus accès à l'électricité. Même lassitude exprimée par Patrick, un jeune de 26 ans.
Je suis obligé de prendre une moto tard dans la nuit pour aller jusqu'au prochain village. Puis il faut avoir la chance de trouver du fioul. C'est une perte de temps.
Dans un tel contexte, les habitants sont toujours tentés par les petits billets que certains candidats en campagne distribuent en échange d'un vote. Patrick, lui, ne croit plus en les promesses des politiques qui ne sont jamais parvenus à assurer les besoins de base de son village.
Les gens prennent l'argent des politiques, ils vont voter, le pays n'avance pas. Les routes sont toujours aussi mauvaises et chaque fois que les politiques viennent, ils nous promettent d'améliorer notre quotidien. Et une fois les élections terminées, on ne voit aucun changement.
Les deux principaux candidats à l'élection présidentielle multiplient les appels à la mobilisation de ces électeurs peu intéressés par la campagne électorale.
Ce reportage ne vous étonne pas, Vincent ?
Non, pas du tout, pas du tout. Quand on marche dans les rues du Nigeria, on entend souvent les bruits des générateurs qui produisent de l'électricité. Pourquoi ? Parce que la plupart des maisons ne sont pas raccordées au réseau électrique, finalement. Donc les gens achètent des générateurs qui rechargent au fuel, là-bas ils disent, donc à l'essence. Donc les vendeurs d'essence se frottent les mains. Il paraît que les fabricants de générateurs sabotent les lignes électriques pour éviter que les gens soient finalement raccordés au réseau électrique. Donc vous voyez, il y a un problème de raccord même aux besoins les plus stricts, comme l'électricité.
Alors parlons du lac Tchad qui est au cœur de votre livre, de votre voyage. Je rappelle que c'est un livre à la fois savant, le vôtre, puisque vous êtes universitaire, et le livre d'un aventurier, en quelque sorte, d'un baroudeur, hein, parce que vous nous faites découvrir le pays, je le répète, à hauteur d'homme, hein, sur il y a pas mal de rencontres. Ce lac Tchad est une région stratégique, il faut le rappeler. Vous nous rappeliez tout à l'heure qu'il y a autour de ce lac le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Tchad, des pays qui sont en crise aujourd'hui.
Exactement, on dit qu'autour du lac Tchad vivraient plus de 20 millions de personnes aujourd'hui. Vous voyez, on a un bassin de vie commercial qui pourrait être très riche, qui a un potentiel très riche. On a la capitale du Tchad qui n'est pas très loin des rives du lac Tchad,
oui.
N'Djamena, exactement. On a le nord du Cameroun qui, lui, connaît des densités de population rurale très fortes, même sont parmi les plus fortes dans toute l'Afrique subsaharienne. Donc, vous voyez, ce sont des régions qui avant Boko Haram, étaient densément peuplées. Alors aujourd'hui, évidemment, beaucoup de populations ont bougé à cause de Boko Haram. On a beaucoup de populations.
Des millions de personnes.
Exactement.
Hein,
des camps de déplacés, que ce soit dans la capitale de l'état du Borno, Maïdougouri, ou même du côté camerounais de la frontière. On a beaucoup de Nigérians qui traversent la frontière. Donc il y a eu beaucoup de déplacements de personnes aujourd'hui. Donc c'est très difficile d'avoir une image parfaite de ce qui se passe.
Et il faut rappeler que sur le plan écologique, sur le plan de l'environnement, le lac, ça sèche.
Exactement. On est en phase de petit lac. Alors ça veut dire qu'il y a des cycles. Le lac va repartir un de ces jours, va devenir plus grand. Donc il y a deux cuvettes aujourd'hui. Cuvette nord, cuvette sud, et des marécages entre les deux. Mais rien n'est perdu, le lac reprendra une taille assez importante apparemment vers la moitié du XXIe siècle.
Dites-moi Vincent Iribarren, vous avez eu beaucoup de chance car pour votre livre vous avez pu rencontrer le 20e Chebou, c'est-à-dire le 20e roi du Borno.
Exactement, il est descendant de la 3e dynastie du Borno. On a un royaume dans la région, sur les rives du lac Tchad, depuis au moins le 9e siècle après Jésus-Christ. L'un des premiers royaumes subsahariens à se convertir à l'islam, au moins dont les dirigeants sont convertis à l'islam. Une dynastie, deux dynasties. La troisième a vu le jour après un djihad au début du 19e siècle.
Oui, d'ailleurs, vous soulignez que le lien entre le pouvoir royal et l'islam est très étroit et très fort. Hein,
ouais. Exactement, il représente l'autorité morale sur place, il déclare le début du Ramadan. Il est l'autorité, il est vraiment l'autorité religieuse sur place. Et d'ailleurs, son titre chez vous, c'est le mot cheikh en arabe, c'est l'homme lettré. C'est l'homme qui vraiment connaît l'islam et qui donc se rend à la Mecque, discute avec ses homologues nigériens, mais aussi dans toute la région. Il représente cette autorité historique, mais aussi religieuse sur place.
D'ailleurs, de ce livre montre qu'il y a toujours ce parallèle entre l'organisation étatique, la structure administrative du pays, et les coutumes, l'histoire locale.
Exactement.
Ancestral.
Exactement. C'est toujours le dilemme que beaucoup de pays de la région, d'ailleurs, ont du mal à résoudre. C'est comment incorporer ces autorités traditionnelles dans un jeu démocratique aujourd'hui. Alors, au Nigeria, précisément, le roi en question, le Shehu, n'a pas de pouvoir constitutionnel. En revanche, il a quand même un certain poids politique puisque tous les gouverneurs élus démocratiquement de l'État lui rendent visite. Et donc ces rois servent de relais aux politiques officielles du gouvernement. Donc on voit bien en quoi, en gros, chacun utilise l'autre. Et donc c'est une sorte d'entraide entre les deux. On peut dire aujourd'hui que ces rois ne sont quand même pas, n'ont pas énormément de pouvoir et qui sont quand même sous l'influence du pouvoir démocratique. On ne parle pas de...
Pas un pouvoir réel.
Non, il n'y a pas de pouvoir
réel. Il fait concurrence au pouvoir politique.
Exactement. On n'est pas dans une monarchie constitutionnelle ou même dans une monarchie de telle sorte. On a des pouvoirs quand même qui dépendent du pouvoir politique.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, merci pour vos messages. Continuez bien sûr à nous écrire. Un bonjour aujourd'hui à quelques auditeurs qui nous écoutent. C'est une tradition, Vincent, dans cette émission. Bonjour aujourd'hui à Urgo N'Djamena, justement. Crésus à Sokodé, au Togo. Je salue également Pedro à Bamako, Noël au Cameroun et Kevin à Kinshasa.
Une semaine d'actualité.
À noter cette semaine dans l'actualité africaine la poursuite des manifestations au Soudan, avec en plus l'arrestation jeudi de plusieurs militants de l'opposition. Au Burkina Faso, le début lundi de l'exercice Flintlock organisé par l'armée américaine. 33 pays y participent, dont 16 pays africains. Et approchons-nous du Nigeria, Vincent Iribarren, en nous rendant au Cameroun, justement dans le nord-ouest du pays, à Koumbo précisément, dans la région en proie à un conflit séparatiste. Koumbo, des images de maisons incendiées soulèvent quelques questions. Anne Cantener.
Des dizaines de maisons ont été brûlées en quelques jours, selon des témoins, à Koumbo et dans les villages alentours. D'après un défenseur des droits de l'homme dans la région, des habitants ont fui pour se cacher en brousse, d'autres se sont réfugiés à Bamenda, à environ 80 km. Selon une source, à Koumbo, des militaires sont entrés dans l'un des hôpitaux de la ville dimanche dernier à la recherche de combattants séparatistes. Selon cette source, les soldats ont menacé des patients, des médecins et des habitants ayant fui leur maison pour se réfugier à l'hôpital. Plusieurs sources affirment également que certaines maisons ont été brûlées par des militaires camerounais, notamment dans un village situé à la périphérie de Koumbo. Le responsable de la communication au ministère de la Défense, de son côté, précise que ces pratiques ne sont pas dans les habitudes de l'armée. Par contre, ajoute le colonel Didier Badjek, si les militaires trouvent un abri terroriste avec des armes, celui-ci est détruit. Il ajoute enfin, la réponse de l'armée est tout à fait proportionnée.
À noter aussi dans l'actualité africaine, évidemment, les élections au Sénégal demain. On espère avec le cœur pur que tous les voyants sont en vert pour une élection calme, transparente et apaisée. Nous écrit un de nos auditeurs, il s'appelle Mokhtar, il nous écoute à Richard Toll au nord du Sénégal et il nous donne la fréquence même de RFI là-bas. 94.3 sur la FM naturellement. On va continuer et conclure cette émission en continuant à nous promener dans cette région du Borno, au nord-est à l'extrême nord-est du Nigeria, grâce à vous, Vincent Iribarren, où l'on découvre qu'il y a une université à Maïdougouri, et vous publiez d'ailleurs une photo de cette université et d'un homme qui vous a marqué, qui est professeur à l'université. On va lui rendre hommage, Bosoma Chérif.
Oui, Bosoma Chérif m'a beaucoup aidé, non seulement en me mettant en contact avec des personnalités dans toute la région, donc à partir d'un manguier au Nigeria, c'est d'où le titre du livre, mais aussi m'a invité.
C'est-à-dire que vous étiez sous un manguier.
Sous un manguier, littéralement sous un manguier, nous étions en train de discuter, on a commencé à discuter de où aller, qu'à qui parler, ainsi de suite, d'où le titre du livre.
Les palabres.
C'est à peu près ça. Et lui-même m'a invité à un cours magistral qu'il faisait à 7h du matin pour éviter les grosses chaleurs de milieu de la journée sur l'oralité dans le nord-est du Nigeria. Lui-même est spécialiste de la littérature kanuri et du théâtre kanuri. Et c'était un cours magistral qui était fascinant, qui était passionnant. Une heure plus tard, j'en voulais encore. Ça s'est terminé malheureusement. C'était vraiment exceptionnel. Donc cet homme m'a mis en contact non seulement avec beaucoup de gens, mais aussi fait connaître une culture kanuri qui est la culture principale sur place, mais qui n'est pas la seule, mais qui est vraiment fascinante et qui mériterait d'être plus connue.
Ah, ce qui est fascinant, justement, pour reprendre votre mot, Vincent, c'est la vie à Maïdougouri. On a l'impression, vu d'ici, que la guerre est générale et que tout le monde se cloître, mais pas du tout.
Non. Les gens continuent à vivre tous les jours dans la peur, c'est vrai, dans une peur.
C'est-à-dire qu'il est difficile de se déplacer dans la région, quand même. Voilà. C'est dangereux.
Voilà, exactement. On peut voyager dans la ville de Maïdougouri, on prend ses précautions, on peut aller dans tel ou tel quartier. Il est évident qu'on entend des explosions. Encore il y a deux jours, il y a eu des explosions dans les quartiers en banlieue de Maïdougouri. Donc on parle bien de danger ici. Mais l'armée nigériane circule dans les rues de Maïdougouri. Il n'est pas rare de voir des chars, ou au moins des véhicules blindés dans les rues. Il y a un couvre-feu. Il est difficile de circuler après 6h du soir. Donc il y a quand même un danger qui est là, mais la vie continue et le commerce continue. Oui. Les gens continuent à l'université, qui est un havre de paix, qui sans cette université et cette ville de Maïdougouri serait bien différente. Vous voyez, cette université de Maïdougouri abrite de très nombreux universitaires nigérians, mais aussi invite leurs voisins du Cameroun, du Niger. On rencontre des gens qui vous apprennent des milliers de choses. J'ai réussi à lire certains de leurs livres sur place, auxquels on n'a pas accès ici en Europe, donc il faut aller sur place, il faut les rencontrer, et j'espère faire honneur à certaines choses qu'ils m'ont dites ici, et grâce à ce livre, j'espère parler vraiment de cette profondeur historique dans toute la région, et dans tout le bassin du lac Tchad en particulier.
C'est le cas, effectivement, c'est un livre d'histoire et un livre de rencontres avec les Nigérians d'aujourd'hui. À propos d'éducation, vous dites, toujours est-il que l'éducation coranique représente une continuité dans tout le nord du Nigeria, et le recours à l'éducation occidentale est, lui, une rupture, c'est-à-dire qu'il est difficile pour elle, cette éducation occidentale, de s'imposer.
Si on change d'échelle, on peut parler de au moins 600-700 ans d'éducation coranique dans la région. Donc effectivement, celle-ci était réservée souvent à une élite, mais pas que, donc à une petite partie de la population. Et quand sont arrivés les Britanniques au début du XXe siècle, ceux-ci ont apporté avec eux leurs écoles. Les missionnaires qui sont arrivés pour convertir certaines minorités ont aussi ouvert leurs écoles. Donc vous voyez, c'est assez récent. Ces écoles occidentales sont assez récentes. On parle donc de 700 voire 800 ans d'écoles coraniques. Le Borno, la région, était connue pour ses écoles et attirait des hommes lettrés que des hommes de toute la région, que ce soit l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Ouest. Des gens venaient sur ces rives du lac Tchad pour apprendre plus sur l'islam, plus sur les lettres, plus sur le droit.
Et qui est cette jeune et élégante femme qui se trouve sur la couverture et que les auditeurs peuvent découvrir sur la page d'accueil de l'émission sur notre site RFI.fr?
C'est une magnifique photo. C'est une réfugiée dans un camp au nord du Nigeria, à la frontière avec le Niger. Et c'est un photographe, ce n'est pas moi qui l'ai prise, c'est un photographe qui a pris sa photo. J'aurais aimé la rencontrer en personne. Il faut dire que je ne suis pas photographe, que je suis admiratif. C'est une magnifique photo.
Mais pourtant, vous avez des photos à l'intérieur. Il y a un cahier photo dans le livre. Vous allez y retourner, j'imagine.
Oui, mi-avril, j'y retourne donc bientôt. Mes cours se terminent bientôt à Londres, donc dès que je peux, j'essaie d'y retourner pour présenter le livre, évidemment, parce que il ne faut pas que ce livre reste uniquement en Europe. Il ne faut pas que ce soit une sorte d'impasse. Il faut communiquer. Je vais faire en sorte que ce livre soit traduit en anglais aussi vite que possible. Donc je vais faire en sorte que je rende aux personnes de la région leur histoire pour espérer continuer pour de futures recherches.
Et ben moi, je vous encourage vivement à continuer à écrire des livres de ce genre, Vincent Iribaren. Livre qui s'intitule Un mangui au Nigeria, histoire au pluriel du Borno, livre qui plus est publié chez Plon dans la collection Terre Humaine. Merci.
Merci beaucoup.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Nous nous retrouvons demain pour le magazine Idée. Vous savez, celui qui interroge ceux qui pensent le monde, et peut-être inviterons-nous Vincent Iribaren dans ce magazine dans les mois et les années qui viennent. Et avec notre invité demain, dimanche en tout cas, Christine Orsini, nous parlerons de la pensée de René Girard, célèbre pour sa réflexion sur le mimétisme et sur le phénomène du bouc émissaire. Elle nous expliquera tout ça demain dimanche, donc à 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI bien sûr.